France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Voici cette semaine une série sur Platon et la politique. Premier épisode, que reproche Platon à la démocratie ? L'un des enjeux dans cette série sur Platon et la politique est de voir si Platon a évolué au fil de son œuvre dans sa réflexion sur les questions politiques et notamment si sa position antidémocratique s'est un peu adoucie avec le temps ou non. Cet antidémocratisme est clair et net en tout cas dès les premiers dialogues rédigés par Platon, en particulier dans le Protagoras et la République dont nous allons beaucoup parler ce matin. Nous allons en profiter pour préciser comment Platon, né vers 428-427 avant notre ère et mort vers 348-347, se situait comme homme, comme citoyen et pas seulement comme philosophe dans la vie politique de son temps à Athènes et ce à quoi correspondait exactement la démocratie athénienne qui a connu d'importants soubresauts à la fin du 5e siècle avant notre ère et qui a intenté un procès à Socrate, le maître de Platon. Ce procès s'est conclu par la mort de Socrate par ingestion d'un poison appelé la ciguë. C'était en moins 399. Platon avait environ 30 ans. Bonjour Paulin Ismar.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire grecque ancienne à l'université d'Aix-Marseille, auteur de travaux importants sur les cités grecques de l'Antiquité, sur l'esclavage antique, sur le procès de Socrate à Athènes et sur le fonctionnement de la démocratie athénienne dont les grands principes ont été posés par Clisthène vers la fin du 6e siècle avant notre ère. Vos ouvrages sont publiés pour certains chez Flammarion, pour d'autres aux Belles Lettres et en Poinceuil. Et bonjour Dimitri Elmur. Vous êtes professeur de philosophie à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris, spécialiste de philosophie antique, de Platon en particulier. La plupart de vos travaux sont publiés chez Vrin et je renvoie en particulier pour ce qui concerne notre discussion de ce matin à celui qui s'intitule « Savoir et gouverner, essai sur la science politique platonicienne ». Alors, ma première question pour vous deux est celle-ci. Dans quel état est la démocratie athénienne ? Au moment où Platon est un adolescent, puis un jeune homme, c'est-à-dire en gros dans les 20 ou 15 dernières années du 5e siècle avant notre ère. Paulin Ismar, vous commencez, vous êtes l'historien.
Alors, en fait, ces années-là correspondent aux dernières années de cette grande guerre qui a embrasé l'ensemble du monde grec, qui est la guerre du Péloponnèse, qui a vu s'opposer Athènes et ses alliés à une coalition qui dominait essentiellement par Sparte et qui s'achève par la défaite athénienne en 404. En même temps, c'est des années au cours desquelles le modèle démocratique athénien, tel qu'il s'est forgé depuis le début du 5e siècle avant notre ère, parvient d'une certaine façon à maturité. Évidemment, la cité connaît sur le plan politique des crises, mais voilà, le modèle de... Alors certains, parfois, ont parlé de démocratie radicale, ou c'est aussi le modèle, disons, qu'on impute, dont une grande partie est imputée à l'œuvre de Périclès dans les années 430. Ben, on le voit vraiment fonctionner, et Platon grandit durant ces décennies, où voilà le régime démocratique athénien a trouvé ses assises. Alors, ce qu'on sait de la jeunesse de Platon, c'est que il devient un disciple de Socrate peut-être à la fin des années 410, début des années 410-400. Et évidemment, si on s'en tient en particulier à ce texte étrange pour nous qui est la lettre 7 dans lequel Platon revient sur sa vie, ce qu'a été sa formation et le rôle qu'a joué pour lui à la fois l'enseignement de Socrate et puis surtout la condamnation de Socrate, le grand moment décisif de la vie de Platon, c'est quand même la fin du régime démocratique en 404-403, le renversement du régime démocratique et l'installation d'un régime de type oligarchique qui va gouverner Athènes durant quelques mois et qui est au sommet duquel on trouve de très nombreux proches de Platon, puis le rétablissement de la démocratie, et quelques années après le rétablissement de la démocratie, le procès de Socrate et la condamnation de son maître. Voilà, et ces deux événements que Platon met en parallèle et qui représentent vraiment un grand tournant dans sa vie.
Alors, Paulin Ismar, on le voit très bien, Dimitri Elmure, dans tous ses travaux, nous incite à regarder politiquement ces figures philosophiques, aussi bien Platon que Socrate, qui ne sont pas juste des purs esprits qui réfléchissent comme ça, dans l'abstrait. Ils sont actifs, ils sont présents, mais comme tout le monde, d'une certaine façon, être un citoyen dans l'Athènes démocratique, c'est être susceptible d'être tiré au sort, notamment pour le pouvoir alors dit législatif, même si ce n'est pas l'Assemblée qui vote les lois, mais elle les prépare, et c'est le peuple qui les vote, l'Assemblée des citoyens. Donc, ils sont quand même... intéressés par la situation précise. Et ils sont très, très anti-système athénien, démocratique, classique. Vous pensez, que vous aussi, qui travaillez sur les textes, que nous devons avoir bien cela en tête?
Ah oui, je pense que c'est absolument indispensable. Heureusement qu'on a les travaux d'historiens comme Paulin, pour justement, nous, lecteurs philosophes ou historiens de la philosophie, être capables de, comment dire, de pas décontextualiser les textes et les arguments qu'on essaie de reconstituer, de comprendre dans les textes, de Platon, d'Aristote, voilà, de tous ces auteurs. Parce que si on n'avait pas ce travail indispensable, il y a tout un pan de la réalité de ces arguments, de leur profondeur qui nous échapperait. Et donc, pour répondre encore plus précisément à votre question, bien sûr que Platon, c'est un citoyen. Visiblement, il a, si on en croit la lettre 7, eu des ambitions politiques qui se sont marquées de différentes manières, sans doute par un certain nombre de d'illusions et déconvenues. La première d'entre elles, mais peut-être que ça précédait son engagement politique, au moins théorique, c'est évidemment la mort de Socrate, ce qui est quand même, je pense, pour lui un scandale, mais tout ce qu'il a préparé, comme le rappelait Paulin. Donc, évidemment qu'on peut pas comprendre Platon si on l'extrait de tout ce contexte-là. Ce que je trouve fascinant, par ailleurs, mais ça c'est une sorte de, ça c'est le philosophe qui parle, c'est vraiment pas, je sais pas ce que Paulin en pensera, mais c'est que moi ce que je trouve fascinant dans la manière que Platon a d'aborder la politique, mais c'est sans doute lié à ce contexte, c'est que en fait, bien sûr qu'on a raison de parler d'une philosophie politique de Platon. Ça serait quand même fou pour celui qui a écrit La République, Le Politique, Les Lois, L'Apologie, Le Protagoras, bref, Le Gorgias, voilà, tous les dialogues dont vous allez parler cette semaine.
Oui.
Ça serait fou de ne pas le penser. Simplement, il faut quand même ajouter que Platon, c'est un penseur de la politique qui subordonne la politique à autre chose qu'elle-même. Et ça, c'est quand même une décision extrêmement forte, c'est-à-dire que la politique n'a de valeur pour lui que si elle est indexée à la philosophie. Et par conséquent, ça produit quelque chose d'un peu bizarre, qui est que c'est à la fois quelqu'un qui parle de politique tout le temps, mais en même temps qui est un critique de la politique extrêmement fort, même de point de vue théorique. C'est-à-dire que, au fond, la politique n'est jamais autonome.
Mais ça dit aussi à la force de son dégoût, pardonnez-moi, j'enfonce le clou, à l'égard d'un monde politique, démocratique, où effectivement, n'importe qui peut se mêler de politique, n'importe qui peut être tiré au sort. C'est une réponse élaborée qui soumet la politique à des principes extérieurs à elle. Mais que pouvait-on trouver de mieux pour exprimer le rejet d'une politique qui se pensait en quelque sorte comme autosuffisante? C'était ça la démocratie athénienne, on créait ses principes, toutes les opinions avaient un droit d'expression, etc. Donc ça fait partie du dégoût de
oui,
Platon.
Oui, je crois que c'est vraiment le cœur du dissensus ou de la mésentente, pour reprendre un terme de Jacques Rancière, avec le régime démocratique. C'est-à-dire que c'est le régime qui n'accorde pas à ceux qui savent la prééminence qui devrait être la leur, puisque dans les instances démocratiques, à l'Assemblée, au Conseil, n'importe qui peut prendre la parole, quel que soit son savoir, quel que soit son niveau d'expertise. Bon, c'est une critique qui revient en permanence chez Platon, mais qui revient aussi chez d'autres socratiques, et qui manifestement était constitutif de la pensée de Socrate.
Oui.
Voilà. Et à partir de laquelle, évidemment, Platon va, va construire son édifice ou sa philosophie politique, qui effectivement est aussi une cosmopolitique, enfin qui est pas où le politique a pas cette autonomie.
Mais vous écornez aussi, Paulin Ismar, une certaine mythologie de Socrate. Parce que parfois, on sait, on ne peut pas ignorer que Platon n'aime pas la démocratie. Mais parfois, on se dit que le Socrate historique, qu'il fait parler sa langue antidémocratique, historiquement, Socrate n'était peut-être pas aussi violent et critique de la démocratie. On l'a souvent pensé, on s'est dit, il y a un Socrate de Platon et puis il y a eu un Socrate historique. Mais vous, Paulin Ismar, vous rappelez que Socrate avait beaucoup d'amis parmi les 30 qui ont pris le pouvoir en moins 404-403, et que Socrate lui-même était extrêmement sceptique, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'égard de la situation démocratique.
Oui, enfin, il y a une critique assez radicale du régime démocratique par Socrate, et pas seulement par le Socrate de Platon. C'est vrai aussi du Socrate de Xénophon, et voilà, ça fait partie, disons, de la tradition socratique. Alors après, il y a l'homme Socrate, la place de Socrate dans la cité, le fait que nombre de ses disciples ont effectivement essayé de renverser le régime démocratique en 404-403, et que dans l'atmosphère politique athénienne, c'était déterminant, les Athéniens identifiaient Socrate au camp des oligarques. Et c'est évidemment à l'arrière-plan de sa condamnation.
Et ça, du point de vue de la lecture de... Alors, on ne peut pas lire Socrate, il n'y a pas d'œuvre écrite, mais du point de vue des représentations philosophiques, êtes-vous d'accord, Dimitri Elmure, pour dire que parfois on essaye de séparer le Socrate historique de Platon en suggérant qu'il n'était peut-être pas aussi virulent à l'égard de la démocratie. Tout simplement parce qu'on le voit déambuler dans les rues, parler aux gens, on se dit, tiens, ce monsieur-là, il ne pouvait pas détester quand même l'opinion autant que Platon.
C'est une idée c'est hyper intéressant de faire l'histoire de cette idée-là. Elle remonte à assez loin. Et en fait, dans les études un peu, disons, platoniciennes modernes, celui qui a défendu ça le plus fort, et c'est intéressant de savoir qui c'est, il s'appelle Grégory Vlastos, et il a notamment défendu cette espèce d'idée d'un Socrate qui serait au fond, pas vraiment un démocrate, faut pas exagérer, mais disons qu'aurait été quand même aristocratisé, par Platon. Au fond, moi, je pense que, comme le disait Paulin, je pense que Socrate est quand même très, très, très antidémocrate. C'est quand même difficile de quand on regarde un peu l'ensemble du kaléidoscope, des autres sources, de penser autrement. Et le problème, j'admets parfaitement, et je comprends l'argument consistant à dire, oui, mais Socrate, c'est la discussion libre, il y a certains commentateurs qui sont allés jusqu'à dire, voilà, c'est un modèle habermasien du dialogue, si vous voulez, c'est la raison communicationnelle, on parle ensemble, on arrive à raisonner ensemble, etc. Et Platon, c'est les solutions autoritaires, etc. Donc on voit bien la différence. Il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est vrai, sauf que, la vraie différence, à mon avis, c'est que Platon est le premier à essayer d'adresser les questions politiques à leur échelle. Socrate, c'est l'échelle individuelle. C'est-à-dire, évidemment, si on discute rationnellement entre deux personnes, entre deux âmes qui ont envie de connaître quelque chose, ou alors avec un sophiste, on va utiliser des arguments, on va se réfuter, etc. Mais est-ce que ça, c'est une solution politique? Si on passe à l'échelle politique, c'est-à-dire à l'échelle globale, là, il faut d'autres moyens que la discussion rationnelle, et peut-être qu'effectivement, là, ça a l'air d'être moins démocratique.
Oui. Mais ce Grégory Vlastos dont vous parliez, quel était son intérêt ou son envie en faisant de Socrate un personnage moins critique de la démocratie que Platon?
Je pense que ça correspondait chez lui aussi à quelque chose de très profond dans les études platoniciennes, qui est qu'on a tendance à les lire de manière évolutionniste. Et ça rejoint complètement le problème que vous avez posé cette semaine. C'est-à-dire, on commence avec Socrate, puis Platon devient Platon, puis à la fin, Platon devient vieux, il devient un peu Aristote. Grosso modo, c'est ça.
C'est-à-dire moins antidémocratique.
Oui, de fait, c'est vrai. Et puis surtout, enfin, il a abandonné les formes intelligibles, il a enfin compris que les formes étaient des concepts, et puis là, on peut faire de la philosophie sérieusement. Donc, il y a quand même un préjugé, ce qu'on appelle développementaliste, barbarisme, mais qui explique bien son truc, et Vlastos s'inscrit considérablement là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, il isole même à l'intérieur de la première phase socratique de Platon des sous-phases où on voit qu'il évolue, etc. Donc, je pense qu'il y a aussi quelque chose de cet ordre-là, qui est vraiment important chez chez Vlastos de retrouver une sorte de source socratique dont Platon se serait écarté.
Bon, ben on va reprendre ces sujets parce que c'est le premier épisode de cette série. L'idée d'une permanence chez Platon ou au contraire d'une évolution de son antidémocratisme est au cœur de cette série. Et nous allons entendre un extrait de cette lettre que vous évoquiez, Paulin Ismar, apparemment attribuée consensuellement à Platon, enfin, vous me direz. Et vous me direz aussi ce que vous pensez de sa date, si on la connaît. Écoutez.
Moi, qui observais ces choses et les hommes qui faisaient de la politique, plus j'approfondissais mon examen des lois et des coutumes, et plus j'avançais en âge, plus il me paraissait difficile d'administrer correctement les affaires de la cité. Il n'était en effet pas possible de le faire sans amis, sans partisans fidèles. En outre, les lois écrites et les coutumes étaient corrompues. Et cette corruption avait atteint une importance si étonnante que moi, qui dans un premier temps avais été submergé par une grande envie de m'occuper des affaires publiques, je finis, en considérant la situation et en voyant que les choses allaient absolument de travers, par être pris de vertige et par être incapable de cesser d'examiner quels moyens feraient un jour se produire une amélioration, aussi bien en ce domaine que cela va de soi pour le régime politique dans son ensemble. Je fus nécessairement amené à dire, en un éloge à la droite philosophie, que c'est grâce à elle qu'on peut reconnaître tout ce qui est juste aussi bien dans les affaires de la cité que dans celles des particuliers. Que donc le genre humain ne mettra pas fin à ces maux avant que la race de ceux qui, dans la rectitude et la vérité, s'adonnent à la philosophie, n'ait accédé à l'autorité politique. Ou que ceux qui sont au pouvoir dans les cités ne s'adonnent véritablement à la philosophie en vertu de quelque dispensation divine.
C'est ce qu'on appelle la lettre 7 de Platon. Je ne suis pas sûre qu'on en sache grand-chose. J'ai cru comprendre Paulin Ismar. Mais d'abord, pourquoi lettre 7? Enfin, c'est un classement d'archivistes, juste pour qu'on comprenne un petit peu ce qu'est cette lettre.
Non, mais disons, c'est la septième lettre du corpus des lettres attribuées à Platon.
Oui.
C'est la lettre la plus longue, la plus riche, et puis qui a une vraie portée à la fois politique et philosophique. Voilà. Mais son authenticité est quand même discutée.
Encore.
Voilà.
Mais c'est la moins discutée de toutes les lettres qu'on a à un moment donné attribuées à Platon.
Alors peut-être qu'elle n'est pas directement de la main de Platon.
Oui.
Enfin, de toute façon, ce serait même pas de la main de Platon, ce serait de la personne à qui Platon l'aurait dictée. Peut-être que c'est pas Platon qui l'a dictée à quelqu'un, mais en tout cas, dans ce cas-là, elle viendrait quand même, disons, de l'école platonicienne.
D'un bon platonicien.
D'un très bon platonicien.
Alors, on va juste évoquer un point qui est important et peut-être difficile dans cette lettre. Et puis, je voudrais ensuite, Paulin Ismar, que vous nous racontiez comment Platon, se posant mille questions sur sa démocratie, sur la démocratie, sur la politique, a fondé l'Académie. Parce que c'est aussi un acte, ce n'est pas qu'un acte théorique de fonder une école, c'est aussi un acte politique. Mais dans cette lettre, on lit que, le genre humain ne mettra pas fin à ces maux avant que la race, mot très délicat pour les modernes que nous sommes, il faut mettre dans son contexte, la race de ceux qui, dans la rectitude et la vérité, s'adonnent à la philosophie, n'est accédé à l'autorité politique. Est-ce que ça veut dire que les bons, ceux qui ont le bien en eux, ceux qui savent faire en politique, constituent des gens qui ont ça quasi dans leur biologie, ce qu'on dirait peut-être davantage pour cette époque, y a-t-il une innéité, quelque chose d'inné qui constitue le bien, la morale et par là même la compétence politique pour Platon?
Alors non. Ce qu'il y a en revanche, c'est que la manière dont... Alors cette phrase et tout ce passage qui vient de lui, c'est un décalque de la République. D'un passage du livre 5 de la République, aux alentours des pages 473. Et c'est vraiment un décalque, on retrouve la même idée. Et dans La République, on trouve justement une idée qui répond exactement à votre question, qui est ce concept que Platon a inventé, forgé, celui de philosophos physis. C'est-à-dire, je le dis en français, de naturel philosophe. Et donc, c'est-à-dire de nature philosophique, peu importe la traduction. Alors, ça, si on se dit ça, on se dit, il y a des natures philosophiques, il y en a qui ne le sont pas. Oui, mais cette nature philosophique est avant tout celle d'un désir de connaître, donc d'une certaine force qu'on donne au désir de savoir dans sa vie, et elle n'est pas du tout suffisante pour faire un philosophe. C'est-à-dire qu'il faut bien l'avoir au début, explique le livre 6 de la République, c'est au tout début du livre 6 de la République, mais si il n'y a pas une éducation correcte, et tout passe quand même par l'éducation pour Platon, c'est vraiment central, cette philosophos physis, elle ne peut pas être transformée dans quelque chose, elle ne peut pas être épanouie, elle ne peut pas donner sa pleine mesure, et c'est cette pleine mesure-là, uniquement si les circonstances sont réunies, donc il y a énormément de si hein, dans tout ça, énormément de conditions, qui peut-être fera qu'un philosophe pourra gouverner.
Mais il y a quand même une dimension innée. Il y a des âmes pour Platon qui sont d'emblée plus ou moins aptes à traverser ce processus que vous dites et à acquérir le sens de la philosophie, le sens du bien et sans doute le sens politique, alors qu'il y a des âmes perdues d'avance.
Alors, je pense que c'est je pense pas qu'il y ait forcément des âmes perdues d'avance. En revanche, Platon pense qu'il faut un certain nombre de talents ou de prédispositions pour être amené à éventuellement les développer vers la philosophie. Un exemple très simple. Effectivement, Platon pense que si on n'a pas la capacité à apprendre, donc par exemple une bonne mémoire et un certain usage de la mémoire, ça va être extrêmement difficile de faire des études de philosophie. Rappelons quand même que dans la République, pour devenir un philosophe gouvernant, il faut faire beaucoup de mathématiques, hein, 15 ans. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de mathématiques.
Il faut devenir un philosophe et un mathématicien accompli.
Voilà, et ça demande... En fait, je pense qu'il faut le prendre un peu de manière en fait, assez déflationniste, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a un désir, et Platon pense qu'on peut le détecter parfois chez des jeunes enfants, ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes enfants qui ont des sortes d'aptitudes où on se dit, tiens, ça pourrait se développer en philosophe, mais s'il n'y a pas l'ensemble du processus éducatif derrière, évidemment, c'est ça qui est absolument indispensable.
Alors sur ce point, la question du naturel philosophe et donc du naturel bon politique potentiel, qu'est-ce que vous en pensez, Paulin Ismar ? C'est pas rien de dire qu'il y a une race de gens, alors je sais bien qu'il ne faut pas sur-saturer ce mot race employé à l'époque par rapport
à... C'est une traduction du terme génos qui a un sens très large.
Oui, d'accord.
On pourrait aussi dire catégorie.
Une catégorie de gens. Voilà. Mais vous êtes d'accord pour dire que tout le monde, contrairement à la démocratie athénienne, tout le monde pour Platon n'a pas la même valeur. Certes, même ceux qui ont de la valeur doivent beaucoup travailler pour devenir philosophe et de bons politiques éventuellement, mais tout le monde au départ n'a pas les mêmes qualités.
Je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, ce qui me frappe dans ce texte, c'est ce que je trouve très beau et très impressionnant. Ça renvoie à ce que disait tout à l'heure Dimitri. C'est ce récit autour du vertige, c'est-à-dire le vertige, l'illigia face à la corruption de la cité, qui oblige Platon à inventer une grammaire politique nouvelle. C'est l'idée que les formes politiques traditionnelles n'ont plus aucune valeur, aucun sens. Et ça correspond quand même à un parcours dans la vie de Platon qui, à mon avis, est fondamental, parce que là, on sort à la fois de la philosophie socratique, mais surtout de la façon dont Socrate exerçait la philosophie, c'est la fondation de l'Académie, puisque ce qu'on peut reconstituer...
Alors, allez-y, racontez-nous ça un peu.
Ce qu'on peut reconstituer, en fait, c'est que Socrate, donc, meurt en 399, et c'est pas dans la lettre 7, mais c'est d'autres textes qui nous permettent de le dire. Plusieurs disciples de Socrate, dont Platon, quittent la cité et vont s'installer quelque temps à Mégare, sans doute parce qu'il n'est pas très bon d'avoir été le disciple de Socrate à Athènes juste après sa mort. Et Platon va revenir dans la cité en 387, enfin il revient peut-être un petit peu avant, on ne sait pas, mais en tout cas en 387, il y a ce moment fondamental qui est la fondation de l'Académie, c'est-à-dire la fondation d'un lieu à distance de la ville, à proximité d'un ancien gymnase de la cité, mais aussi d'un sanctuaire d'un héros qui s'appelait Academos, d'où le nom Académie. Et là, il va former Une école avec un sanctuaire des muses et puis un petit bâtiment dans lequel des formes d'enseignement vont avoir lieu. Il y a des gens qui vont s'y installer pour y vivre durablement. Et donc, ne serait-ce que spatialement, d'un point de, voilà, par rapport à ce qu'est Athènes dans la première moitié du IVe siècle, cette distance prise à l'égard de la ville, à l'égard des lieux du politique, est absolument fondamentale.
Tout le monde peut aller à l'académie.
On ne sait pas bien. Ce qui est certain, alors peut-être qu'on ne sera pas d'accord là-dessus avec Dimitri, mais c'est que du point de vue des historiens du politique athénien, il est très clair qu'un des projets de l'académie, c'est de pouvoir y former des jeunes gens qui appartiennent à l'élite de la cité. Alors des Athéniens et des non-Athéniens, mais aussi des Athéniens, tout simplement pour que, se formant à la philosophie, ils puissent finalement prendre le pouvoir à Athènes et transformer la cité. Donc il y a aussi, l'académie très certainement ne vise pas seulement à transmettre la tradition socratique et puis élaborer une philosophie conçue sur un plan strictement spéculatif. Il y a aussi un projet politique qui est associé à l'académie. Et quand même, si on regarde la longue histoire de la démocratie athénienne du IVe siècle, il faut quand même toujours avoir en tête que cette démocratie va véritablement être abolie à la fin du IVe siècle pendant 10 ans, 317, sous l'égide d'un individu, Démétrios de Phalère, qui est un philosophe, qui est un élève d'Aristote, qui a été élevé dans le cadre du lycée, et le lycée c'est aussi une école philosophique qui a quand même pour modèle fondateur l'académie. Donc de toute façon, le projet de l'académie va en un sens triompher à la fin du IVe siècle avec l'abolition de la démocratie et le règne de Démétrios de Phalère qui dure une dizaine d'années. Donc cette dimension politique elle est quand même importante, c'est une rupture très profonde avec l'univers de la cité démocratique, alors que vous le disiez, Socrate, il enseigne dans les espaces publics. Il est accessible à tous.
Très différent.
Avec l'académie, Platon invente quelque chose de tout à fait nouveau, assez extraordinaire, mais qui est en rupture avec l'univers de la cité démocratique.
Et pourtant, dans ces dialogues, la figure de celui qui fait accoucher les âmes de vérité, celui qui est donc quand même pédagogue, mais par le questionnement, c'est Socrate. Mais donc, de ce point de vue-là, le Socrate de Platon, Il est dans l'espace public, en tout cas dans des espaces, dans les dialogues, il discute avec des sophistes, il discute avec tout le monde apparemment.
Oui.
Mais dans l'académie, Platon crée des conditions d'enseignement qui sont un peu différentes des pratiques de Socrate, du Socrate historique.
Oui. Pour autant qu'on sache qui était enseigné à l'académie, parce que pour rebondir sur ce que disait Paulin, là aussi il y a un énorme mystère, il y a des débats féroces. Enseignait-on à l'académie, je vous donne l'exemple d'un débat, enseignait-on à l'académie, donnait-on des leçons de zoologie et de botanique ou pas, il y a des textes qui disent oui, des textes qui disent non. Bon, on y faisait sûrement des mathématiques, ça je pense qu'on peut être à peu près certain, parce que c'était aussi j'ajoute juste à ce que dit Paulin, avec lequel je suis entièrement d'accord, c'était aussi un centre de recherche. Je pense. C'est-à-dire que ça a aussi été... C'est aussi une université, en fait, l'académie. C'est-à-dire que certains mathématiciens, les plus brillants de l'époque, se sont... Donc, effectivement, on a enseigné des choses tout à fait différentes de ce que représente le modèle du dialogue socratique. Est-ce que ça excluait, cependant, l'échange argumenté tel qu'on peut le trouver dans les dialogues? On n'en sait strictement rien. Et juste pour poursuivre ce que disait Paulin, moi, je suis assez d'accord avec l'idée qu'il y a un projet politique aussi derrière tout ça. Ce que je trouve fascinant, en revanche, c'est que j'en avais déjà parlé à Paulin, j'avais lu il y a quelques années un bouquin qui essayait d'évaluer est-ce que oui ou non, au fond, l'académie a changé quelque chose dans l'histoire des cités en envoyant des gens formés chez elle pour gouverner telle ou telle cité, etc. Et ce bouquin, avait un jument assez timide en disant, visiblement, il y a peut-être ça comme projet, mais l'impact de l'académie n'a pas été. Donc ça, c'est vraiment une question que je ne suis pas capable de répondre.
Oui.
Mais en tant qu'historien, ça m'intéresse de savoir si on peut évaluer vraiment l'impact. Paulin donnait l'exemple de Démétrios de Phalère. Bon, ça, c'est un exemple concret, mais qui vient du lycée. Donc on rattache...
Le lycée, c'est plutôt...
C'est Aristote, hein. Donc on, c'est voilà, on le rattache à second degré, en fait, oui. À l'Académie. Mais est-ce que Platon a eu un tel impact?
En tout cas, si j'ai bien compris, j'attends votre réponse, Paulin Ismar, mais il y a un point à ajouter à la question, qui est que lui-même, Platon, a essayé de conseiller plusieurs fois des tyrans. En ce qui concerne lui, il le souhaitait, il est allé 3 fois à Syracuse, je crois. Donc, nous vous écoutons, Paulin Ismar, sur la réalité des effets notamment politique de cette école, l'Académie, créée par Platon.
Non, c'est difficile à mesurer. Je pense que sur le très long terme, les effets sont considérables. Alors, pour ça, il ne faut peut-être pas observer ce qui se passe dans le monde des cités du IVe siècle. Oui. En fait, c'est plutôt dans le cadre des monarchies hellénistiques à partir de la fin du IVe siècle, et puis qui ensuite vont dominer le monde grec pendant, jusqu'au premier siècle avant notre ère. Et le modèle du philosophe conseiller du roi, il va gouverner quand même l'organisation, la conception du pouvoir dans un certain nombre de ces monarchies. Et on peut revenir, de ce point de vue-là, encore à Démétrius de Phalère, parce que Démétrius de Phalère, il quitte Athènes pour se rendre en Égypte. Il participe, alors on ne sait pas exactement à quel degré, dans quelle mesure, à la fondation du musée d'Alexandrie, dont le modèle du musée d'Alexandrie, c'est quand même ces écoles philosophiques athéniennes, et la première d'entre elles étant l'Académie, et qui est au service du roi, et qui en même temps est un centre de recherche, qui en même temps a une bibliothèque, donc voilà, qui est un lieu très... Mais au service de la monarchie lagide. Donc c'est peut-être dans cette longue durée qu'il faut voir...
situer les effets. Ouais. Bon. Alors, nous allons parler maintenant du Protagoras. Dans ce dialogue, Dimitri Elmure, Platon met en scène Socrate parlant avec des représentants des sophistes, probablement les plus prestigieux d'entre eux, on est d'accord, qui pensent, eux, que... on peut enseigner l'art politique, c'est un art, on peut l'enseigner à n'importe qui, il correspond aux idéaux de la démocratie athénienne, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bons et des mauvais politiques, mais enfin, on peut l'enseigner à tout le monde. Et donc, si j'ai bien compris, mais j'aurais que vous introduisiez la chose vous-même, Socrate s'étonne d'abord du fait que la manière dont Protagoras parle de cet art en fait un art plus égalitaire que les autres. On sait bien que tous les cuisiniers, tout le monde ne peut pas être cuisinier même en bossant beaucoup. Il y a des mauvais, il y a des mauvais médecins, il y a des mauvais charpentiers. Protagoras a l'air de dire non seulement c'est un art, mais c'est un art très égalitaire. N'importe qui peut finalement être bon à la fin. Mmh. Et puis au bout du compte, Socrate veut montrer que ce n'est pas un art du tout. Alors je vous écoute.
Alors, le Protagoras, c'est un meeting de sophistes. C'est ça qui est génial. C'est un des plus beaux dialogues. Le prologue est absolument incroyable. Donc, c'est un meeting de sophistes. Ils sont tous là. Il y a tout le monde. Voilà. Et puis, il y a Protagoras. Et Protagoras, effectivement, Socrate discute avec lui. Et Protagoras, il vend ses services. Hein. C'est toujours ce que reproche Platon aux sophistes. Donc, et il permet aux jeunes riches athéniens qui le rémunèrent d'acquérir, selon lui, la vertu politique, donc la capacité aussi de parler devant l'Assemblée. Et donc, voilà. Et Socrate lui dit, c'est quand même un peu étrange, c'est l'argument que vous rappeliez, c'est que, tout le monde pense qu'il n'y a pas beaucoup de cordonniers, pas beaucoup de mathématiciens, pas beaucoup de joueurs de lyre, que sais-je. Et alors, tout le monde a l'air de croire qu'on est capable de faire de la politique. Mmh. Et par conséquent, mais en fait, à quoi sert l'enseignement de Protagoras? La réponse à ça, de Protagoras, c'est ce qu'on appelle le grand mythe de Protagoras. Alors, ce mythe, il est fascinant et mystérieux. Il est mystérieux d'abord parce que on ne sait pas si c'est un expressis verbis, c'est-à-dire si c'est la lettre même, c'est les mots mêmes de Protagoras. Il y a toute une tradition qu'il a pensé longtemps, etc., etc. Moi, je pense que c'est pas trop dans la manière de Platon de ne pas transformer les choses qu'il intègre. Mais en tout cas, très clairement, il y a quelque chose de l'ordre de l'esprit de Protagoras qui est dans ce
texte. Mythe que raconte le personnage Protagoras dans ce.
Voilà. Le contexte dans lequel apparaît le mythe que je viens de rappeler, qui est un contexte effectivement de discussion autour de la démocratie et de la vertu politique en démocratie, amène énormément de commentateurs à penser que Protagoras, par conséquent, est un défenseur de la démocratie. Et alors ça, c'est une question hyper compliquée qui...
je croyais que c'était oui, tout simplement.
En fait, non, c'est pas si évident. C'est pas du tout si évident. Et je peux vous dire en une seconde pourquoi. Mais je vais vous dire aussi, avant de vous dire pourquoi c'est important cette question. C'est
Oui,
que cette, parce qu'en fait, une chose dont on n'a pas encore parlé tous les trois, c'est que On parle de la démocratie. Les Grecs ont inventé la démocratie. Voilà, allons-y vite, comme ça. Mais les philosophes et les intellectuels sont tous des critiques de la démocratie. Ils disent tous que ça ne va pas à la démocratie, qu'un peu d'oligarchie c'est mieux, un peu d'aristocratie c'est mieux, etc. Et donc les textes qui défendent théoriquement la démocratie, on n'en a pas.
On a un discours de Périclès.
Alors, il y a le discours de Périclès, effectivement, qui est un grand, qui est un texte, mais qui est un texte théorique, effectivement. Mais ça, c'est ce qu'on a. Et puis, comme on est un peu à la recherche de textes, il y a aussi celui de Protagoras
qu'on utilise. Et puis, il y aura Aristote, quand même, le chapitre 11, livre 3, de la politique, que tout le monde cite. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas très nombreux. Donc, et le paradoxe, c'est que c'est Platon, antidémocrate, qui met dans la bouche de Protagoras une défense extraordinaire de la démocratie. Écoutez la fin du mythe, car il est assez long, le moment où Zeus, s'apercevant que Hermès a très mal distribué les qualités à toutes les espèces, et notamment aux humains qui n'ont plus rien, prend une décision. Écoutez.
Zeus, de peur que notre espèce n'en vînt à périr tout entière, envoie Hermès apporter à l'humanité la vergogne et la justice, pour constituer l'ordre des cités et les liens d'amitié qui rassemblent les hommes. Hermès demande alors à Zeus de quelle façon il doit faire don aux hommes de la justice et de la vergogne. Dois-je les répartir de la manière dont les arts l'ont été ? Leur répartition a été opérée comme suit. Un seul homme qui possède l'art de la médecine suffit pour un grand nombre de profanes. Et il en est de même pour les autres artisans. Dois-je répartir ainsi la justice et la vergogne entre les hommes ? Ou dois-je les répartir entre tous ? Zeus répondit « Répartis-les entre tous, et que tous y prennent part. Car il ne pourrait y avoir de cité si seul un petit nombre d'hommes y prenaient part, comme c'est le cas pour les autres arts. Et instaure en mon nom la loi suivante, qu'on mette à mort, comme un fléau de la cité, l'homme qui se montre incapable de prendre part à la vergogne et à la justice. » C'est ainsi, Socrate, et c'est pour ces raisons que les Athéniens, comme tous les autres hommes, lorsque la discussion porte sur l'excellence en matière d'architecture ou dans n'importe quel autre métier, ne reconnaissent qu'à peu de gens le droit de participer au conseil, et ne tolèrent pas, comme tu le dis, que quelqu'un tente d'y participer sans faire partie de ce petit nombre, ce qui est tout à fait normal, comme je le dis moi. Lorsqu'en revanche il s'agit de chercher conseil en matière d'excellence politique, chose qui exige toujours sagesse et justice, il est tout à fait normal qu'ils acceptent que tout homme prenne la parole, puisqu'il convient à chacun de prendre part à cette excellence, sinon il n'y aurait pas de cité. Voilà donc, Socrate, la cause de ce fait.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Et nous parlons de Platon et de la politique toute cette semaine. Ce matin, nous creusons l'antidémocratisme de Platon qui a peut-être duré, probablement. On verra au cours de cette série s'il a été un petit peu amendé. Nous venons d'entendre le fameux mythe de Protagoras dans le dialogue du même nom, dialogue de jeunesse de Platon. Donc si je comprends bien, Protagoras répond à Socrate « mais oui, tout le monde a la vergogne et la justice. Zeus a réparti ça entre tous les humains de manière égale. » Donc à titre de potentiel, on peut travailler à partir de la même base et devenir tous de bons politiques. C'est ça ?
C'est exactement ça. Et il dit même, tout le monde, chaque citoyen peut enseigner à l'autre la vertu politique, puisqu'elle a été justement distribuée de manière absolument universelle. Par conséquent, mais qu'enseigne donc Protagoras si tout le monde connaît ? Il explique que c'est pas parce que tout le monde a la vertu politique que son enseignement à lui n'a pas de sens et qu'il s'inscrit dans
Il déploie un potentiel.
Voilà.
C'est ça ?
Exactement. Et qui s'inscrit dans ce contexte démocratique. Donc, pour revenir à la discussion qu'on avait avant l'extrait, il y a quand même des bonnes raisons de penser qu'il y a une forme de défense de la démocratie, ou qu'à tout le moins, ce passage du mythe a un rapport, évidemment, avec ça. Ce qui est plus problématique, c'est d'autres choses qu'on sait de Protagoras, c'est notamment la fameuse théorie de l'homme-mesure. L'homme est la mesure de toute chose. Ça, c'est,
entendu. Voilà. Mais alors, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que tout à l'heure, on a eu cette discussion pour Platon, qui s'oppose donc à Protagoras. Je vous ai demandé s'il y a de l'inné contre cette version de Protagoras de... Protagoras dit tout le monde peut y aller et être bon. Platon dit non. Bah, je réitère ma question. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'inné? Il y a des gens, ils ont beau bosser, ils ne seront jamais de bons philosophes, jamais de bons politiques. Est-ce que ce n'est pas une défense que Platon va formuler via Socrate de l'innéité des grandes vertus morales et politiques contre cette vision égalitaire?
Alors, en fait, tout dépend comment on met le curseur. C'est-à-dire que c'est très, 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 très rare les gens absolument inéducables, absolument incurables. Platon ne dit jamais que ça n'existe pas. Il pense que ça existe. Il pense qu'il y a des gens pour lesquels on ne pourra jamais leur inculquer la vertu, etc. Mais c'est quasiment rien. La majorité des gens, et ça il en est absolument persuadé, ont la capacité, s'ils sont bien éduqués, d'être parfaitement moraux, vertueux, etc. Il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. Mais c'est vrai qu'il n'élimine pas l'idée d'inéliminable. Voilà.
En tout cas, il dit que ce n'est pas un art. Pas du tout même, la poétique. Alors qu'est-ce que c'est ? L'art politique, c'est pas un art, c'est quoi? C'est un savoir?
Ah, pour Platon, c'est un art et un savoir.
C'est quand même un art.
Oui, c'est quand même... Alors, en fait, il identifie la notion de techné, d'art et de savoir, d'épistémé, elle est chez lui, dans ces contextes-là, extrêmement... c'est la même chose. Donc, il y a évidemment un savoir politique, mais qui n'est pas du tout de l'ordre de la rhétorique Protagoras veut enseigner. Voilà, tout le débat est là.
Qu'est-ce que l'historien que vous êtes, Paulin Ismar, peut nous dire des sophistes maintenant? Il y a une thèse célèbre de Barbara Cassin sur le fait que les sophistes, je ne veux surtout pas la résumer trop abruptement, mais bon, ce sont les philosophes du politique démocratique d'Athènes. Certes, ils n'ont rien laissé comme écrit, mais a-t-on raison historiquement de les reconsidérer malgré l'absence de texte?
Oui, enfin, moi, il faut voir là, ce qu'on appelle le mythe de Protagoras, en fait, c'est l'adaptation par Protagoras d'un mythe très traditionnel, qui est le mythe de Prométhée. Donc ce mythe qui est attesté d'abord chez Hésiode, qui est important dans le théâtre athénien de la première moitié du 5e siècle, hein, c'est la pièce d'Eschyle, et puis on voit Protagoras qui s'empare de ce mythe et qui lui donne une toute autre dimension, qui le réinterprète, qui lui donne un prolongement tout à fait nouveau. Et on a évidemment quand même envie de mettre en relation cette version protagoréenne du mythe avec ce qu'est la démocratie athénienne du 5e siècle, ne serait-ce que parce que chez Hésiode ou chez Eschyle, Prométhée, c'est quand même, il y a une faute, il y a un crime commis par Prométhée, alors que au contraire c'est une figure très positive. Il y a même une forme d'optimisme technique dans la version protagoréenne, et on le met en rapport avec des évolutions qui sont celles d'Athènes au 5e siècle. Donc moi, en faire un mythe qui nous permet de comprendre ce qu'est disons l'idéologie démocratique athénienne en l'absence de texte, oui, j'ai envie de le faire. Et effectivement, ce qui me semble essentiel, c'est de définir la politique de façon différente que toutes les technailles des artisans, et différemment qu'un savoir comme celui de la médecine, précisément parce que la politique n'est pas une épistémé. C'est pas une science. La science politique, ça n'existe pas.
Merci Protagoras de répondre à ça.
Ouais, c'est quand même c'est énorme. Et en plus, vous ça nous parle très directement. C'est vraiment une question qui est totalement la nôtre.
Et donc vraiment, on n'a pas de texte des sophistes. On en a quelques-uns.
On a quelques fragments, mais qui sont transmis par des sources postérieure. À chaque fois, il faut essayer de les recontextualiser, essayer de comprendre dans quoi ils s'inscrivent. Mais ce qui est intéressant dans la tradition sophistique, et Barbara Cassin le montrait bien dans les faits sophistiques, c'est que la transmission peut être extrêmement tardive. Et en fait, la seconde sophistique d'époque impériale, en fait, nous permet parfois de comprendre différemment les sophistes du 5e siècle. Mais il y a aussi toute une tradition biographique autour de Protagoras, qui l'associe à la fondation de la cité de Thurioi, en Grande-Grèce, qui aurait eu une constitution particulièrement démocratique, dont Protagoras aurait été l'auteur. Bon, moi, je crois quand même en cette...
Et on sait qu'il a écrit un discours, on a un titre... Un discours sur l'origine...
Protagoras.
Oui, des cités, etc. On connaît juste le titre qui est dans De Gênes Laërce. Il y a de fortes chances que ça soit quelque chose de cet ordre-là. Mais ce qui est... Moi, ce que je trouve fascinant, notamment dans le rapport entre Platon et Protagoras... Bon, Protagoras, c'est un ennemi pour Platon, indéniablement, on a compris. Mais c'est que c'est la manière dont Platon le discute et le réfute. Oui. Ici, un peu moins, mais dans le Théétète, c'est tout à fait clair... C'est que ça nous montre que Platon, même si évidemment il ne partage pas les idées de Protagoras, c'est clair, il ne réfute jamais quelqu'un par le bas.
Oui, alors, vous parlez de réfutation. Donc, c'est vrai qu'il met dans sa bouche un mythe extraordinaire. Hein. Quiconque est démocrate apprécie le mythe de Protagoras. C'est un hymne à l'égalité, au moins des dispositions politiques. Mais ce n'est peut-être pas une argumentation, c'est un mythe.
C'est vrai.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment discuter. Non. On arrive à un point de la délibération, si j'ose dire, vous avez évoqué Habermas, la délibération entre Socrate et Protagoras, où on touche à des croyances profondes, qu'on ne peut pas, on peut pas argumenter pour ou contre, on produit des mythes.
Ouais. C'est pour ça qu'il y a le Thée et Tête. C'est-à-dire qu'il y a la première partie du Thée et Tête, où Protagoras, là, est le champion du relativisme, et donc du fameux principe « l'homme est la mesure de toute chose », qu'on peut mettre en rapport, ou pas. Et on peut le mettre en rapport avec cet égalitarisme, disons, démocratique. C'est pas du tout absurde de le faire. Et là, c'est là où on voit que Platon a son plus grand. C'est-à-dire que non seulement Protagoras, Socrate le réfute, mais Protagoras revient des morts. C'est la fameuse apologie de Protagoras où il revient pour réfuter Socrate. Bah, c'est Platon le metteur en scène. Hein.
Ouais.
Et là, Socrate y va. Et donc, Socrate le re-réfute une seconde fois. Donc, on voit en fait que Platon a du respect pour Protagoras. C'est-à-dire, en fait, c'est pas quelqu'un dont il a pas mesuré l'ampleur de la pensée. Ça me paraît absolument évident. Il est évident aussi qu'il veut le critiquer, s'éloigner de lui, que la scientificité de la politique pour Platon, c'est le contraire du protagoréisme, mais il le critique quand même toujours par le haut.
Alors, c'est la question de l'égalité des dispositions qui est au cœur du débat sur aime-t-on ou non la démocratie. Oui, il y a une certaine égalité des dispositions politiques, dit Protagoras. Socrate, envoyé par Platon, dit non. Et puis, dans la République, c'est la question de la liberté qui se pose. Alors, je vous propose qu'on écoute ce passage assez célèbre, ce dialogue où, cette fois-ci, face à Glaucon, Socrate critique l'esprit de liberté, la démocratie, qui tourne à l'anarchie et au relativisme des opinions. Ça, vous allez nous expliquer. Mais je vous propose qu'on explique, après la lecture, le contexte exact dans le livre de cette discussion. Écoutez Socrate et Glaucon dans la République de Platon.
Eh bien, n'est-ce pas justement l'appétit insatiable de ce que la démocratie considère comme son bien qui va conduire à sa perte ?
Qu'est-ce qu'elle considère, à ton avis, comme son bien ?
La liberté. Ce bien-là, tu entendras dire dans une cité gouvernée démocratiquement que c'est le bien le plus beau et que pour cette raison, la cité démocratique est la seule où un homme libre, par sa naissance, jugera digne de s'établir.
Cette affirmation, on l'entend souvent, en effet.
Eh bien, et c'est là ce que je m'apprêtais à dire, n'est-ce pas le désir insatiable de ce bien et la négligence de tout le reste qui déstabilisent cette constitution politique et la mettent en situation de recourir nécessairement à la tyrannie ?
Comment ?
Quand une cité gouvernée démocratiquement et assoiffée de liberté tombe par hasard sous la coupe de mauvaises échansons et s'enivre du vin pur de la liberté, dépassant les limites de la mesure, alors ceux qui sont au pouvoir, s'ils ne sont pas entièrement complaisants et ne lui accordent pas une pleine liberté, elle les met en accusation pour les châtier, comme des criminels et des oligarques.
Voilà ce que la cité fait.
Quant à ceux qui respectent l'autorité des gouvernants, on les invective en les traitant d'hommes serviles et de vauriens, mais les gouvernants qui passent pour des gouvernés, et les gouvernés qui passent pour des gouvernants, ce sont eux dont on fait l'éloge en privé comme en public, ce sont eux auxquels on accorde du respect. N'est-il pas inévitable que dans une telle cité, l'esprit de liberté s'étende à tout ?
Si, nécessairement.
Et qu'il se propage, cher ami, jusqu'à l'intérieur des maisons privées, de telle sorte qu'au bout du compte, l'anarchie s'implante même chez les animaux sauvages ?
De quoi parlons-nous ici ?
Vois, par exemple, quand le père prend l'habitude de se comporter comme s'il était semblable à son enfant et se met à craindre ses fils, et réciproquement quand le fils se fait l'égal de son père et ne manifeste plus aucun respect ni soumission à l'endroit de ses parents, dans quel but ? Devenir libre. Et pareillement pour le métèque qui se fait l'égal du citoyen et le citoyen l'égal du métèque, et de même pour l'étranger.
Voilà bien comment les choses se passent.
Dimitri Elmure, vous avez la parole pour nous expliquer ce dialogue à propos de la démocratie dans le livre 8 de la République de Platon.
D'accord. Alors, c'est, pour être synthétique, c'est l'un des arguments centraux qui permet à Platon de critiquer la démocratie. c'est de lui reprocher de placer la liberté comme une valeur suprême et d'indexer tout le reste à ça. L'argument de Platon, c'est que quand on prend la liberté comme valeur, finalement, la démocratie s'auto-détruit et tombe dans son contraire, qui est la tyrannie. C'est-à-dire qu'elle, voilà, il y a une auto-destruction de la liberté. Alors pourquoi ? Parce que, au fond, et c'est l'argument un peu que développe ce texte avec une image que je trouve moi qui m'a toujours fasciné, je comprends pas de le dire totalement, qui est que on place tellement haut dans la démocratie la valeur de liberté que l'on devient, et le désir de liberté, que l'on devient absolument incapable de supporter la contrainte. Donc, c'est-à-dire que ma liberté soit restreinte. Okay. Et par conséquent, on en vient à ne plus supporter la moindre autorité, et donc l'ordre naturel des choses, les hommes sur les animaux, alors les hommes sur les femmes, enfin bon voilà, donc toutes les hiérarchies naturelles de l'époque.
Que nous disons tout à fait autrement aujourd'hui, voilà. Oui.
Et c'est pour ça qu'on a dans ce passage cette scène absolument incroyable où Platon décrit des hommes qui scellent le passage devant des animaux. Moi, je suis sûr qu'il y a... Pour moi, c'est une scène de comédie, mais c'est tragicomique, en fait. Hein. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'argument central. J'ajoute juste une chose, pas être trop long, c'est un argument fantastique, mais on voit aussi tout ce que Platon ne dit pas. C'est-à-dire que là, il prend la liberté au sens de liberté de licence. C'est-à-dire la liberté de faire ce que je veux dans ma vie. Évidemment, il ne parle pas de liberté politique. Et pas du tout dans le livre 8. Donc, en fait, là, je sais pas, la liberté des citoyens de s'auto-organiser, de décider quelle loi, quelle forme d'action, il en parle jamais. Donc, c'est quand même une décision tout à fait particulière. Elle a une raison, hein. Elle est liée à la place qu'il donne au désir dans le livre 8 de la République, dans ce qu'on appelle la dégénérescence des régimes, c'est-à-dire le fait qu'on passe d'un régime à un autre. Donc il y a une sorte de mécanique, de moteur qu'est le désir, et c'est pour ça qu'il choisit la liberté au sens de liberté de licence. Mais on peut lui reprocher quand même de ne pas avoir envisagé la liberté politique.
Voilà. En tout cas, la démocratie bazar des institutions ou des constitutions, selon les traductions, débouche sur une anarchie qui nous rendra obligatoire l'appel à un nouvel homme fort. C'est un cycle terrible. Ça évoque des fantasmes et des angoisses grecques de l'époque qui étaient très fortes, j'imagine.
Oui, enfin, en même temps, vous savez, le moment où Platon écrit tout ça, c'est le moment où il y a un vrai consensus autour du régime démocratique à Athènes. Et le processus que décrit Platon dans le livre 8, la démocratie conduisant à la tyrannie, l'oligarchie conduisant à la démocratie, enfin tout ce cycle, Aristote lui répond dans la politique en lui disant mais c'est pas comme ça que ça se passe historiquement. Enfin, en fait, voilà, c'est un schéma très théorique, très puissant évidemment, dans lequel quand même moi ce que j'entends aussi dans ce texte, oui, c'est que qui est vraiment magnifique, mais envisager la démocratie comme une forme d'anarchie, enfin comme si l'anarchie était le destin de tout régime démocratique, c'est quelque chose qu'on entrevoit dans un texte qui est un peu antérieur à Platon, qui est d'un auteur très mystérieux, qu'on appelle le pseudo-Xénophon, qui a écrit une constitution des Athéniens, qui est un texte bref, très violent, contre le régime démocratique athénien.
On l'appelle le vieil oligarque.
Qu'on appelle le vieil oligarque, dont certains pensent qu'il pourrait être Critias, donc celui qui a particulièrement participé au renversement de la démocratie à la fin de la guerre du Péloponnèse. Donc il y a une tradition, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une tradition antidémocratique avec un certain nombre d'images, en particulier l'idée que dans le régime démocratique, maître et esclave en viennent à se confondre. Ouais. Même les esclaves prenant le dessus sur les maîtres. C'est dans le livre 8 de la République. Bon, et Platon reprend de toute façon une partie de cette tradition, mais en lui donnant une ampleur extraordinaire. Parce que c'est la première fois, je crois, où on a vraiment le terme d'anarchie qui devient un concept politique.
Il y a un cycle qui se répète toujours pour Platon. Les philosophes au pouvoir qui sont rêves, l'aristocratie des philosophes, ça va pas marcher longtemps, il y aura des contestations, on va passer à une oligarchie, puis la démocratie, puis le tyran qui va nous sauver, peut-être s'il est intelligent, remettre les philosophes au pouvoir, etc. Il y croit vraiment, c'est ce que j'oserais appeler une des toutes premières philosophies de l'histoire.
Alors moi je pense que justement non. Je pense qu'il n'y a pas de philosophie de l'histoire chez Platon, en tout cas pas là. Je pense qu'il y en a une dans le livre 3 des lois, mais ça c'est une autre question. Je pense en fait que c'est, comme l'a dit Paulin, en fait, je vais faire une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut. Dans ce texte-là, Platon, il fait du Rawls.
C'est Rawls.
John Rawls.
Ah oui, c'est-à-dire que c'est la théorie
politique. Auteur nord-américain de la fin du XXe siècle.
Voilà, c'est de la théorie politique. C'est-à-dire qu'il prend la constitution idéale et il pose le principe que la constitution idéale, étant, comment dire, dans un, si elle est incarnée dans le monde tel qu'il est, de toute façon, pour tout un tas de raisons, ne durera pas. Et qu'est-ce qui s'ensuit si on n'a pas l'idéal? Mais je pense pas du tout que ce soit une philosophie déterministe, au sens où il faudrait nécessairement passer de oui. l'oligarchie à la démocratie, etc. Et c'est pour ça que je pense qu'Aristote a raison de lui reprocher, mais qu'en un certain sens, il manque un peu sa cible, qui est que, encore faut-il penser que Platon pense vraiment qu'on passe toujours de l'oligarchie à la démocratie, de la démocratie à la tyrannie.
Bon, j'ai tellement de mal à vous couper, là. Moi, je serais bien resté avec vous encore une bonne heure. Merci, Dimitri Elmur.
Merci à vous.
Le temps passe, hélas. Merci, Paulin Ismar. Les références de vos travaux sont sur notre site. Voici maintenant la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il s'intéresse au fait de prévoir et de prévenir. C'est le pourquoi du comment.
Pourquoi ne peut-on pas tout prévoir? Le désir de savoir l'avenir, le désir, comme on dit, de le prévoir, de le voir à l'avance, a quelque chose de fondamental pour les êtres humains, mais ce n'est peut-être pas seulement un désir théorique, un désir fondé sur la curiosité, c'est peut-être d'abord, avant tout, un désir pratique, un besoin vital. Nous avons besoin de prévoir l'avenir, surtout sous sa face négative. Quand on veut savoir notre avenir, quand nous demandons l'avenir à une science ou à, au contraire une superstition, c'est le plus souvent, et à juste titre, pour le maîtriser, pour essayer d'éviter les risques qui vont se présenter. Mais le désir de prévoir l'avenir, ce désir très particulier de savoir, on sait aussi qu'il se heurte à de nombreux obstacles, et peut-être d'abord, pas seulement à la complexité de tel ou tel événement qui pourrait nous menacer, et menacer même pour certains toute l'humanité, mais il se heurte aussi quand même à une question théorique, une question de principe, un problème philosophique et logique qui touche à la métaphysique. Peut-on, en effet, prévoir l'avenir tout court? L'avenir est-il, pour des raisons de principe, prévisible ou imprévisible? C'est un débat qui a travaillé la philosophie et qui touche à la question fondamentale du temps. Il nous paraît aujourd'hui logique, au XXIe siècle, avec en plus tant d'événements imprévus qui surgissent de partout, qui débordent le cadre de notre prévision de l'avenir, qui font que le temps, dans sa réalité, nous saute dessus, comme par surprise. C'est la définition d'ailleurs de la surprise, c'est ce qui nous saute dessus depuis l'instant présent, absolument imprévisible auparavant, pour le meilleur et pour le pire. Nous savons bien que le temps nous réserve de l'inattendu, que nous ne pouvons pas tout prévoir, qu'il appartient au temps d'être imprévisible, comme le disait Bergson, qui définissait le temps justement par là, un jaillissement continu d'imprévisibles nouveautés qui dépassent le cadre de notre prévision. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Au contraire, il y a un problème logique, en effet tenant à l'essence même du savoir humain et de la vérité des énoncés en quelque sorte logiques. S'il est vrai que César franchit le Rubicon, c'est vrai avant que César le franchisse. Il y a donc une capacité logique, un problème logique à dire qu'un énoncé est vrai et qu'en même temps, on ne pourrait pas le savoir à l'avance. S'il est vrai que César franchit le Rubicon, alors cela doit toujours être vrai. Cela doit être vrai non seulement de manière aléatoire, sous condition, mais de manière absolue et logique. La possibilité de savoir l'avenir serait donc possible en droit et seulement limité en fait par les limites de notre connaissance humaine. C'est pourquoi, après cette thèse des Grecs sur la connaissance logique de l'avenir, qu'il est vrai ou faux que César franchit le Rubicon ou pas, Leibniz, par exemple, a expliqué que Dieu peut prévoir absolument l'avenir et c'est seulement les limites de notre connaissance qui font que nous ne savons pas, nous, si César franchit le Rubicon ou pas. César lui-même, d'ailleurs, étant incertain sur ce point et le décidant au dernier moment d'un coup de dé. Mais le problème logique de la capacité de prévoir l'avenir, de la réalité, de l'imprévisibilité du temps, est toujours effacé par le problème pratique. Prévoir l'avenir, ce n'est pas le maîtriser absolument d'une manière théorique. Il nous est obligatoire non seulement de le prévoir, mais de le prévenir. Peut-être est-il plus important de se représenter l'avenir non pas comme un spectacle qu'on se donne à l'avance, un prévoir, mais plutôt comme une action que l'on doit préparer dès maintenant, un prévenir. Passons de la prévoyance à la prévention, c'est la question.
Merci Frédéric Worms. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Alex Dang. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie. Carla Michel, Nassim El-Kabli, Corinne Amar, Victoire Mellet. Vous êtes sur France Culture. Vive la curiosité.